L'avenir de la conduite est à portée de main. C'est maintenant ou jamais. Montez à bord d'une Mustang Mach-E. Profitez d'une baisse de prix de 5 à 13 000 $ sur le PDSF. Et jusqu'au 30 avril 2024, obtenez 0,99% à la location et jusqu'à 12 000 $ de rabais gouvernementaux sur les Mach-E 2023 neufs sélectionnés. Faites vite, parce qu'une Mach-E à ce prix-là, c'est du jamais vu. Pour plus de détails, rendez-vous chez votre détaillant Ford ou sur Ford.ca.
Trace de break vous est présenté par les stations Arnois. Faites le plein d'aventures et de occases. Premier sur les opportunités. Pat, c'est comme ça que tu as rencontré ta blonde?
Exactement, ouais.
Ah, on parlait de ça pendant le thème d'ouverture, hein, comment Pat a rencontré sa blonde, parce qu'aujourd'hui, on va avoir une émission, podcast, où on n'a pas d'invité.
Non.
Parce que vous avez été plusieurs à nous écrire sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit nos réseaux sociaux personnels ou Trace de Break sur Facebook ou Instagram, à dire, hey, vous posez bien des questions aux invités, mais vous autres, on n'a rien su sur vous autres encore vraiment.
Fait que toutes les questions posées, ça aurait été un peu malaisant d'avoir un invité, puis on répond aux questions qui s'adressent à nous autres. Donc, par respect, on est en solo.
C'est ça.
En trio.
Exactement.
Solo, trio.
Fait que donc, première question, c'est comment Pat a rencontré sa femme?
Tellement pertinent dans le cadre du podcast. Écoute, c'est en fourgon cellulaire, c'est tout ce que je peux dire.
Hein?
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 Non, mais écoute, je t'en parle pas, là.
Non, OK, parfait. Revenons sur le motorisé. Tu nous as raconté, on avait Stéphane Lefebvre dans notre podcast précédent, qui est cascadeur, qui tu y avais raconté une petite passe de VR que tu as vécu.
Passe de VR, mais tu sais, avant de parler du VR, là, honnêtement, moi, j'étais ultra fasciné de recevoir Stéphane parce que c'est un univers que personne, on peut consulter sur Internet ou quoi que ce soit.
C'est limité.
C'est très limité, je trouve.
Ouais,
je veux dire, je ne suis pas fasciné autant que si tu avais un astronaute assis là, mais ça reste que c'est exceptionnel d'accéder à des histoires on-cam puis off-cam.
Si tu avais un cascadeur astronaute, là, tu pognerais de quoi?
Là, tu pognerais des minutes, là, c'est sûr et certain. Hein.
C'est assez dur d'envoyer une doublure dans l'espace pour aller faire une cascade.
Le motorisé, c'était intense, sérieusement. T'sais, c'est dur de le verbaliser et de le décrire à quel point j'avais tellement chaud puis je voulais me déposséder de mon corps à ce moment-là.
Parce que ton Winnebago passait pas en hauteur en dessous d'un viaduc aux États-Unis, tout près de New York.
Tout près de New York, puis tu payes ça assez cher, puis là, c'est pas ton réseau routier, tu connais pas là où t'es. Tu sais à peine là où tu t'en vas, c'est ton GPS qui te guide, puis il t'enligne dans des espèces de chemin d'accès, no truck, puis tout ça, j'ai vraiment pensé que j'allais arracher mon toit ce jour-là, tu sais. Fait que je me voyais mal aussi. Puis ne serait-ce que pour la perte financière, mais pour le reste des vacances que tu viens de saccager, solide.
Les troopers américains sont tellement sympathiques pour les touristes qui respectent pas la signalisation et qui se ramassent à un endroit où ils n'ont pas d'affaires.
T'es vous débarquer avec le chapeau, là. T'sais.
C'est arrivé à Michel Barrette, ça, de perdre son air climatisé de par un viaduc, là.
Mais tu sais que j'allais à Old Dutcher.
Les sliders ouverts.
J'allais à Old Dutcher en plus, puis tu parles de Barrette, puis moi, je fais le lien. Parce que ce qui est drôle, en astie avec Michel Barrette, c'est qu'on dirait que ça a bercé ma jeunesse à un point tel où ce que ses souvenirs, j'ai un peu envie que ça soit les miens. Mm-hmm. Fait qu'à chaque fois que je vais à Old Dutcher, je m'en vais manger une pointe de pizza chez Bill's, puis je me fais prendre en photo devant chez Bill's avec le char que je suis. Mais c'est ses souvenirs à lui, c'est pas les miens. C'est ça qui est spécial.
J'ai été avec Michel à Old Orchard pour un voyage de moto, là. Rire de même. T'sais, c'est un guide touristique, là. Hey, les gars, en tout cas, faut que je vous compte ça. Puis là, il revient de 40 ans en arrière avec toutes les anecdotes, mais quand tu veux marcher, mettons, d'un coin de rue au deuxième coin de rue plus loin, t'arrêtes en avant de chaque commerce parce qu'il y a trois anecdotes par commerce.
Par commerce, hein.
Puis il est en train de t'en raconter une, puis il fait « Hey, tu me diras toi bleu. Après, tu me dis toi bleu. Puis là, il continue, termine l'anecdote, Michel.
Mais ce qu'il y a dans ton histoire, Carl, c'est que toi, t'étais avec. Moi, je suis pas avec. Ça, c'est comme.
Mais on peut s'imaginer, même quand il est pas là, c'est hallucinant.
Pablo, on a dit pourquoi tu prends des photos devant chez Bills avec une pointe de plus de garde. Pose pas de questions.
C'est correct. C'est correct.
Pablo, tu nous racontais la première fois que tu l'as rencontré. En tout cas.
Bon.
Fait que Winnebago, VR, pour ne pas le nommer. Mon frère Daniel, je vous avais dit que je vous parlerais de ça. Frère Daniel, qui est 6 ans plus vieux que moi, donc il a 60. Et l'année passée, il a dit, ben, ça faisait un bout de qui il pensait. Il dit, OK, on vend tout. Puis, on décalisse.
Hey, hein?
C'est quand même un move, là, ça. Là.
Ouais,
c'est, ça prend du guts. Là.
Il y a 100 000 personnes qui ont dit qu'ils le feraient, mais il y en a un sur 100 000 qui dit,
exact.
Allons-y.
Puis Sablon était willing aussi. Elle a embarqué là-dedans, vendu les immeubles, tous les biens. Puis eux autres, ils partent, mais ils partent sur un nowhere. Et un nowhere autant de destination que de temps. Fait que ils se disent, on sait pas quand on revient.
C'est
on
souvent
sait
la
pas
meilleure
si on
façon.
Vient.
Donc, c'est des enfants?
Le vieux.
OK,
ils sont vieux, c'est des adultes, tu sais, fait que ça, c'est pas un problème. Fait que, puis mon frère Dan, la beauté là-dedans, puis je pense que ça prend ça, si t'as pas un Winnebago flambant neuf, là, un VR, faut que tu sois quelqu'un qui est capable de réparer les trucs.
C'est sûr, là.
Oh. OK, mon frère il a Dan, pas acheté neuf, là.
Non, non, puis ça, mon frère Dan, c'est le gars qui répare tout. Je veux dire, name it, là, je veux dire, on était jeunes, là. Il défaisait quelque chose, un radio, whatever, puis il le remontait. À un moment donné, il y avait... on restait dans de Bell Canada, tu sais. Il y avait des trucks là, qui allaient installer, des trucs, tout ça, ouais. Puis nous autres, le soir, des fois, on allait voler du stock un peu dans les trucks, tu sais, des fils, des niaiseries. Ben, c'était plus lui, moi, j'étais plus petit, mais bref, je regardais, puis je singeais un peu. Et à un moment donné, c'était l'âge, genre, adolescence, où il y avait, tu sais, bon, il appelait des filles, puis là, ben, avec un de ses chums, il appelait des filles, puis là, ben, fait qu'il avait mis deux cornets, ses téléphones, il avait installé deux appareils pour voir, et il y avait des switches, un pouvait parler, écouter, l'autre pouvait parler, écouter, fait que selon les switches que tu mettais, ça changeait la discussion, fait qu'un pouvait juste écouter, mais sans t'as l'impression que l'autre était là, bref, il était poigneux. Fait que, il organise son VR, et il fait quand même de l'aménagement, parce que lui, il dit, moi, je pas pour un bout, là. Je vais pas juste en vacances, là. Je vis dedans. Fait qu'il a passé vraiment du temps à rénover ça. Ils partent, ils ont mis du fun. Finalement, arrive 3-4 bad luck, là, genre le différentiel. Name it, là, tu sais,
avec un VR, c'est pas il arrive, c'est pas quand, c'est pas si, c'est 140% de probabilité qu'il arrive des histoires en VR, toujours.
Neuf, le tout est cool, le slider
pas sens,
fonctionne
là.
Pas, il y a tout
là,
le temps.
Là, je t'ai coupé, Rick, mais c'est parce que ceux qui ont eu des VR, ils savent à quel point, Chris, faut que tu sois fait fort pour avoir un VR, puis aller longtemps, puis loin en VR.
En partant vider son caca, moi, ça me dérange légèrement.
On va se le dire. C'est moins mécanique, mais oui, j'entends ce que tu dis.
Il y avait un peu de misère.
Mais eux autres trippent sur les parcs nationaux américains où il y a des sources, puis tout ça, puis de... Mais souvent, c'est un peu escarpé pour se rendre là, puis tout ça. Et à un moment donné, ils sont dans le coin de, je pense, que c'est Sedona, je pense. Et il y a comme des rochers, puis là, il dit, là, il s'en va. Mon frère est aventurier.
Ça va monter.
Puis il va, mais il dit, la paroi rocheuse s'en vient de plus en plus vers le top de notre VR. Fait que ça mais il dit, il n'y a pas de place pour tourner, là. Je veux dire,
tu
t'en vas. Ouais. Mais si tu recules, tu vas reculer longtemps. Fait que. Plus ça va, plus que la paroi, ça va vers le Winnebago, tellement qu'à un moment donné, la paroi rocheuse frotte sur le top du Winnebago. Mais là, il va pas vite, mais il dit, « Christy, j'ai plus le choix. » Fait qu'il demande à sa blonde, il dit, « Prends ce tournevis-là puis ce marteau-là, monte sur le top du VR, puis casse la roche pour qu'on puisse continuer à avancer. » Je te le jure. C'en est une des anecdotes. Mais ils ont réussi pareil, puis elle a rien. C'est à cause de ça. T'sais, ça prend vraiment. Demande ça à ma blonde, c'est non. Ton style VR, tu vas te le mettre où je pense. Je reviendrai plus jamais. Name it.
Mais allez sur le neutre, laisse-les rouler en bas. Puis...
Regarde, moi, je débarque ici, on ne se reverra plus jamais. Je veux dire, pas de même, là, j'aurais tout entendu ça. Fait que, bref, ça prend un couple qui est fait pour ça. Puis, un autre moment donné, il est dans un chemin. C'est le soir tard, puis il est en campagne, puis il dit oh là, ça. Fait qu'il va pour faire un U-turn dans cette espèce de chemin de campagne-là, mais son derrière de VR se retrouve dans une espèce de fossé. Et le derrière du VR, parce qu'il dépasse les roues dans l'arrière de beaucoup, s'accote dans le fossé et pop
les roues dans
out.
Le vide.
Pop out. Fait que là, il fait comme, OK, il réussit à sortir de là, puis m'en arrivait à un endroit où il y avait de l'éclairage, et tout son derrière est vraiment sorti, il a comme ouvert. Fait qu'à grand coup de coup de pied, pour essayer juste de rentrer ça en attendant de se rendre quelque part pour pouvoir refermer le tout, si on veut. Fait que c'était deux des...
Mais tu sais, là, moi, là, j'ai... ceux qui me connaissent, ils savent à quel point, mettons, je mange pas d'orange parce que je trouve ça compliqué à nostie de l'éplucher avant de la manger.
Wow.
C'est genre, tu sais, j'adore les oranges, tu sais. Ma blonde, quand je dis ça, elle est tout à découragée, raide, elle dit, voyons, ça... dans le sens où je calcule mes efforts, tu sais. Puis un jour, malgré ça, j'ai eu la bonne idée d'acheter, tu sais, les camions de livraison, les petits cubes, là. Ben moi, j'ai acheté un Mitsubishi Fuso parce que j'étais allé lire là-dessus, puis j'avais vu que dans le Sahara, puis n'importe où, ils prennent ça, puis c'est quatre roues motrices, ouais. Il y en a. Fait que j'étais capable de démultiplier, d'avoir des vitesses semi-automatiques là-dedans. Puis là, de lifter ça, en Australie, ils ont des ensembles de préparateurs incroyables qui font ça, Fuso.com, en tout cas, bref. Puis là, tu mets des grosses roues, tu jack la suspension, puis tu mets une boîte là-dessus. Fait que la boîte avait été faite par une compagnie de Rivière-du-Loup. Mais ça là-dessus, fait un motorisé avec ça. Un chef-d'œuvre. Ouais. Incroyable. Puis mon objectif, c'était de prendre le motorisé, faire un bout avec, style, je pars d'ici, je m'en vais à Toronto. Mais vu que ma vie active ne me permet pas de partir 6 mois, mais je fais une semaine, je le drop là, je prends l'avion, je reviens, je le sécurise. Lors de mon prochain périple, je prends l'avion, je vais récupérer le motorisé, je refais une semaine. Puis de okay. Le laisser aux... Mais tu sais, finalement... Rappelle-toi de l'orange. Je l'ai vendu avant. Mais
avant d'arriver à Toronto?
Avant même de partir. Je l'ai vendu avant de partir.
Mais pourquoi?
Mais on dirait que je voulais vivre la vie d'un autre. Je sais pas. Je trouve tellement ça beau. Les gens parlent de camping, d'aventure, van life, les émissions, la grande, oui. La grosse vie. Je sais pas les titres toutes, là, mais la grande vie en VR, etc. Tout ça, tu sais. Puis il y a de quoi de beau dans le outdooring, d'arriver de te parquer sur le bord d'un lac, de te faire un feu, de te pêcher un poisson que je suis même pas capable de pêcher pour ton souper.
Outdooring. Il y a comme un accent, dire, sur son outdooring.
C'est outdooring, mais au Saguenay.
Ah, OK. C'est parfait.
La vie à l'extérieur.
T'as-tu déjà donné dans le VR?
J'ai failli à plusieurs reprises. Puis à toutes les fois, j'ai eu l'excellente idée d'appeler Pat qui a fait « Non, man, c'est pas pour toi.
Ah, non?
Oublie ça. »
De toute façon, tu l'aurais parqué où, man?
Ben, ça, c'est un léger problème. Parce que chez nous, j'ai pas la place pour le mettre. J'ai de la place pour mettre plein d'autos, mais en hauteur, je peux pas rentrer un motorisé. Ouais. Et... mon niveau de patience sur certains détails. Moi, j'aime ça. Tu sais, j'ai eu toute ma vie des super belles autos. Puis souvent, mes amis me disaient, mais ton auto est sale. Mais je m'en sacre. Je vais la conduire. Mmh. Je veux avoir du fun. Je veux aller sur la piste. Je veux la pousser. Mais s'il y a de la poussière de frein en grandeur de l'auto, ça me passe 100 000 dans sa tête. Okay. Je vais la laver, mais que ça la donne. Mais je veux les sensations. Je suis un gars de sensations.
Ouais.
Mais un motorisé, Pat, il me définit un peu c'était quoi la vie d'avoir un motorisé. Puis, tu sais, le déplacement, ça coûte une fortune de gaz du point A au point B. En partant, ça n'a juste pas de sens au prix de l'essence ou du diesel. Deux, les réparations, ça peut monter extrêmement vite. Trois, moi, si j'ai quelque chose que le toit coule, je viens sans connaissance. Mais là, tu n'achètes à 300 000 flambant neufs, puis il y a des grosses chances que tu aies une fuite en quelque part. Ça ne me rentre pas dans la tête. Le côté d'évacuer les déchets dans le motorisé, non. Moi, je suis dédaigneux. Mes niveaux... Ninja, okay. Là.
Okay,
c'est, je suis vraiment profondément dédaigneux. Il n'est pas question. Ça me prendrait quelqu'un qui me suit dans un deuxième motorisé puis dire, bon, OK, là, on est rendu à la partie qu'il faut vidanger, là, il faut le nettoyer. Là.
Ouais,
mais
ouais.
J'ai comme pas le moyen d'avoir un butler qui me suit dans ma vie.
À toi, man.
Oui.
Je vais le nommer, c'est mon chum Lewis. Il va se reconnaître, Lewis.
On le salue.
On le salue. Lui, dans le fond, là, tu sais, quand tu arrives à motoriser, tu as toujours, dans le fond, ben, tu arrives sur un terrain de camping municipal avec des services, donc l'électricité, l'eau. Bon, lui, il a pris la hausse à l'eau. Puis au lieu de la brancher dans le circuit pour alimenter l'eau, ben, il l'a branché dans une autre affaire qu'on appelle comme pour laver la tank d'eau noire, donc de merde. Il l'a mis là-dedans. Mais il était certain qu'il était connecté avec l'eau de la ville et son réseau.
Non,
fait que lui, il a branché ça, il a ouvert l'eau. Mais il est parti, c'est le camping. Hein. Fait que ça a fait un geyser de marde
dans
la roulotte.
Oh.
Ouais, ça, c'est une bonne histoire.
Alors, moi, je mets le feu dedans.
Je peux comprendre que là, t'es dédaigneux parce que tu rentres, il y a des coliformes qui flottent un peu partout.
Ah, non, ça comme... marche pas, là.
C'est épouvantable. Des histoires de même de motorisés, il y en a plein. Mais ça reste que, avec les enfants, les jeux d'eau, les voyages, c'est trippant. C'est illogique d'avoir une affaire qui déprécie autant, qui brise autant, qui est faite à va-vite, mais on l'achète pareil, tu sais, puis tout le monde qui en a vont vous le dire, tu sais, ça génère des beaux souvenirs, c'est juste que crime...
Mais moi c'est drôle, hein, mais ça m'intéresse pas de traîner ma maison.
Ouais.
J'aime ça être léger, moi, partir, ouais. Tu sais, je pars en vacances, en voyage, depuis la pandémie, ben après la pandémie, on voyage en carry-on. Voyage plus avec les grosses valises, ça m'intéresse plus. Carry on, t'arrives, pif, paf, pouf, c'est léger, tout ça. T'en vas à un hôtel, va à un autre hôtel, t'essayes, tu changes de ville, tu changes de place, t'essayes d'autres choses, je sais pas. J'ai pas l'intérêt. Je trouve ça lourd d'avoir à tout traîner, ce stock-là.
Il y a un côté beauté de la nature que. Moi, je suis pas un gars de camping. Tu sais, moi, de tomber ami avec plein de monde autour que je connais pas. J'en ai plein d'amis. Oui, j'aime ça dans le cadre du travail, rencontrer plein de monde, mais quand je suis avec ma famille puis je veux faire un voyage avec la petite unité familiale, j'aime ça quand ça reste en famille. Mmh. Fait que j'aurais un peu de misère, mais moi, d'aller, par exemple, dans les Rocheuses, de stationner le motorisé, tu te lèves le matin, tu vois le lac Louise, tu vois les Rocheuses. À l'hôtel, tu peux vivre une petite partie d'une petite partie, ouais. Mais de faire tes œufs le matin, dehors, sur ton barbecue, absolument. En regardant ce paysage-là, tu peux pas le vivre autrement. Fait que moi, le rêve de ça, malheureusement, ce qui vient que le rêve est trop lourd.
Tu sais que j'ai fait, moi, pour que ça soit plus financièrement accessible. Puis que, tu sais, souvent, on s'achète des équipements motorisés. Puis là, tu te sens obligé de l'utiliser.
Oui.
Parce que tu payes, je veux dire 100 000, 200 000, 300 000, 50 000. Peu importe qu'est-ce que tu achètes, tu te dis, ben là, il faut que j'y aille toutes les fins de semaine parce que je paye le paiement puis je vais en profiter.
C'est comme un chalet.
Mais en plus, tu peux pas y aller l'hiver. C'est encore pire. Tu vas l'été, puis l'été au Québec, bon, c'est la température qui fait. Ben moi, j'ai acheté un petit trailer. C'est une remorque style acier galvanisé, 3 pieds de large, 5 pieds de long, avec assez de cubage pour mettre, on va dire, chacun ton bagage, un peu comme si tu voyages en carry-on. Okay. Donc, je mets le mien, lui de ma blonde, lui de mon fils, avec un petit poêle propane, etc., des trucs pour manger. Puis sur le toit de ça, il y a des braquettes qui installent une tente semi-rigide, comme tu vois sur les Jeeps, sur une remorque. Fait que t'es pas obligé d'avoir un Jeep à 100 000 traîner ça. Ça pèse 420 livres, 21 livres sur la pôle. Fait que tu peux traîner ça avec un auto électrique si ça te tente, puis le trailer, tu le pousses à bras, tu sais. Fait que dès que t'arrives à quelque part sur le bord d'un sentier, tu t'immobilises, tu dépines ton trailer, tu montes ta tente qui a le fond rigide, puis ça coûte 5 000 $. C'est finançable, puis tu peux le revendre n'importe quand. Puis
là, ça, j'embarque.
Moi, je ne l'ai pas couché à terre. Parce qu'à terre, tu as l'humidité, tu es bébite, tu es dans les airs, tu as ton stock vraiment protégé des intempéries, puis tu es capable de triper pour 2-3 jours, puis de resserrer ça dans le fond de la cour.
Je suis content que ça sente trop le swing, puis tu dis, bon, on va aller se laver à la maison, finalement.
Mais parlant de sentir le swing, là, comment tu fais pour évacuer? Parce que, Carl, c'est sa grande question. Tu évacues sans avoir à nettoyer.
Tu as une petite toilette chimique.
OK. Dans ton trailer.
Dans ton trailer, que tu traînes si tu veux, ou dans l'auto, parce que...
À Cal, c'est encore quelque chose que tu n'aimes pas, ça.
Oui, c'est encore... Mais dans le fond, c'est une cassette. Là. Tu sais, tu t'habitues à ça, puis tu arrives n'importe où. Si tu pars longtemps, après ça, nous autres, les gars, c'est moins compliqué pour... Bon, en tout cas, OK? Mais sinon, tu as une cassette, tu arrives au couche-tard, peu importe n'importe où, tu vas dans la toilette, tu vides ça, merci, bye, là.
Carl, il engage quelqu'un.
Je te confirme.
Hey, mon garçon, viens pour ici moi, pendant le temps que je vais aller acheter une slush.
Je vais t'acheter
une slush pendant le temps que tu vas vider la slush brune.
Sa première partie qui décrivait la remorque, j'étais vendu. Ouais. Là, c'était déjà réglé, j'en voulais une. Mais là, quand il a continué le speech, vois-tu, c'est là que hop, l'intérêt rebaisse.
Ah, tu pourras jamais réussir à accéder à des paysages incroyables et des lieux... Je pense que, je sais pas si c'est en vieillissant, mais peu importe, mais ce qu'on veut accéder en char, en moto, c'est des endroits qui sont le moins touristiques possible, le plus naturellement préservé possible. Puis pour y accéder, nécessairement, tu n'as pas d'infrastructure. Tu n'en as pas d'infrastructure sanitaire.
C'est sûr. Plus tu vas être autonome, plus tu as de chances d'aller dans des endroits qui sont bucoliques et sauvages.
Bucoliques, genre, soit tu vas coucher au Ritz puis c'est dindant, ou soit tu couches dans mon trailer, Carl, mais... T'as accès à... C'est pas les gratte-ciels de la métropole que tu vois, c'est les montagnes,
tu sais. C'est ça.
Le compromis qu'on a trouvé, qui est très bon, c'est qu'on part en moto, on roule, on va dans des paysages extraordinaires, mais le soir, on se trouve à un hôtel, motel, quelque chose de confortable, avec une douche. Parce qu'on va se le dire, se laver une fois par jour, c'est pas tant un luxe.
Non?
Non, pas de moto.
Permis de moto de naissance, pas pantoute? T'es pas de génération-là qui avait le permis de moto d'emblée, là?
Non, j'ai 54 ans, pas 154.
Mais là, mon père l'avait, puis il était un peu plus vieux que toi.
Ben, c'est ça, je te dis.
Mais pas de temps. Tu sais,
alors, c'est moi qui ai l'air le plus vieux, mais c'est Richard, finalement. Là.
OK, parfait, on va passer à d'autres choses. Parlons de Formule 1. T'as parlé de ton chum Lewis tantôt, mais c'était pas Lewis Hamilton.
Non, c'est ça, mais tu sais, c'est parce que cette semaine, il est arrivé une nouvelle comme quoi que Lewis Hamilton va courir dans l'écurie Ferrari à partir de 2025. Puis moi, j'étais comme surpris de ça. qui continue à courir chez Mercedes entre-temps. Tu sais, on est vendeur dans une concession automobile. Quand on annonce nos couleurs de vouloir aller changer d'emploi, on se fait sacrer à la porte pour pas voler de l'information puis ni rien. L'autre, il est à l'avant-plan de la technologie de la F1 d'une importante écurie. Puis il reste là pendant un an comme si de rien n'était dans le secret des dieux avant de sacrer son camp chez le compétiteur.
Mais ça s'est vu souvent là, dans Drive to Survive, là, sur Netflix. Les gars savent qu'ils reviennent pas. Ils sont déjà en train de cruiser d'autres équipes. Puis...
Rarement avant le début de saison. Par contre, il va y avoir des changements techniques majeurs dans la Formule 1. Puis d'après moi, Hamilton va être complètement exclu de toute conversation ayant rapport au développement technique, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais l'avantage, c'est que la voiture qu'ils conduisent cette année, elle ne sera pas nécessairement reconduite. Donc, ça va aider, mais je pense pas que l'équipe va le favoriser, puis le dorloter, puis le mettre autant dans Watt qu'on a vu dans les années passées.
De toute façon, il gagne pas, là. Il n'a pas gagné.
C'est drôle que tu parles de ça. Il gagne pas, mais tu sais, Lewis Hamilton, il y a tout qu'un palmarès de course.
C'est pas ça que je dis.
Quand tu checkes spec to spec par rapport au podium versus Schumacher, mettons, qui est assurément un de mes héros puis des héros de bain du monde puis une légende du sport automobile en F1, mais tabarouette, le nombre de podiums, le nombre de championnats des constructeurs, le nombre de championnats personnels gagnés, t'es épaule à épaule, même davantage un peu en faveur de Hamilton. Puis là, ben, il s'en va dans l'écurie que je sais pas, que moi j'affectionne davantage. On dirait que la F1, c'est Ferrari parce que ma jeunesse était bercée par des victoires, aussi par l'histoire de la marque, évidemment. Fait que moi, je suis super content qu'il s'en aille chez Ferrari.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que il a pas gagné bien dans la dernière saison.
Verstappen est arrivé puis il ramasse tout.
Oui, mais avant, c'était Verstappen puis Lewis Hamilton était...
Moi, je pense qu'il y a une chose, c'est que Verstappen a gagné avec une voiture qui est beaucoup moins dominante que ce qu'on dit.
Okay.
Puis, ce qui rend Verstappen d'autant plus exceptionnel. Ouais. Il a réussi à calmer son côté un petit peu trop exubérant derrière le volant, puis à canaliser. Mais comme au talent pour talent, j'aime mieux Verstappen personnellement.
C'est l'humilité aussi, en plus.
Oui?
C'est tout le temps que la voiture, c'est une fusée, puis c'est un train routier. Ouais. Perez en même, puis... Il roule bien, là, mais c'est pas Max.
Oui, c'est ça, il roule correctement, alors que je pense qu'Hamilton a bénéficié pendant des années d'une auto tellement dominante que quand tu es rendu que tu as une seconde plus vite que tout le monde, l'auto est extraordinaire. Puis pour les deux coéquipiers qui étaient au même niveau, fait, sans rien enlever à Hamilton, ben c'est un grand pilote. Mais personnellement, moi, j'aime mieux un Schumacher qui est arrivé chez Ferrari alors que Ferrari était moribond littéralement, puis qui a réussi à tourner vraiment. T'sais, il était bien entouré, on va se le dire, mais il a réussi à changer la mentalité. Il avait une éthique de travail extraordinaire. Ouais. Il était commis à 100% de tout son âme envers l'équipe. Puis je ne sais pas à quel point Hamilton va offrir le même commitment. Tu sais, le fait qu'il arrive, vous allez trouver que je suis un puriste peut-être en sport automobile, c'est vrai, mais moi, d'arriver sur les circuits de course avec du linge un peu trop voyant, exubérant, qui n'a rien à voir avec l'équipe, j'ai de la misère avec ça.
Okay.
Tu sais, moi, je pense que tu dois arriver, si tu es en civil, quelque chose qui n'est pas trop voyant, pour respecter l'équipe qui te donne 20, 25, 100, 50, 100 millions par année, ben, tu n'arrives pas pour attirer l'attention sur des designers qui n'ont pas de rapport direct avec la F1. Moi,
les époques ont changé aussi, tu sais, je veux dire.
Ouais,
l'influence des médias sociaux, le paraître, les vidéos virales, puis aussi, ben, on ne se le cachera pas, ces gens-là sont commandités dans barrure.
Ouais.
Ils arrivent avec un vêtement, tu penses-tu, toi, qu'il l'a choisi au hasard? Moi, je crois pas à ça. Là,
non,
c'est là la différence aussi avec, tu sais, on va faire un court parallèle, là, mais avec le tennis, tu sais, quand André Agassi est arrivé dans le tennis, là, c'est le premier qui n'était pas bien en blanc.
Long,
puis que lui, il s'est mis à mettre des vêtements, tu sais, là, avec sa funky, là. Mm. Puis là, les cheveux longs, le bandeau, puis les commanditaires ont capoté. Nike a sauté là-dessus, comme si. Mais il ne représentait pas une équipe.
Ouais, c'est
il
ça.
Il représentait André Agassi.
Lui-même.
C'est le gars.
Le brand, c'est lui.
Le brand, c'est lui. Fait que Lewis Hamilton, oui, il représente lui, mais c'est vrai qu'il travaille pour une équipe.
Ouais, moi, de là, pourquoi j'aime mieux une attitude comme un Verstappen que lui. Sa vie privée, il a vie en privé, mais sa vie publique dans des événements de Red Bull, ben c'est le pilote Red Bull.
Mm-hmm. Mais toi, t'as moi, j'aime l'influence de course, puis d'un gars qui était commandité, puis de discours corporatiste.
Ben, tu sais, moi, d'un gars qui avait pas de mot à dire de scène, qui a travaillé 90 heures par semaine pour réussir à aller aux courses un petit peu, fait que le premier qui a tendu à la main, qui m'a donné une commandite, je vais vous le dire, c'était 4 bougies. c'est un port expert à Québec à ce moment-là. Ouais. 4 bougies NJK, qui valaient 3 piastres au détail. J'étais brandé. J'envoyais des clients à toutes les semaines. J'avais les collants sur mon auto, mais la job, c'était pas de mettre le collant. C'était de dire, je vais tellement faire sonner à caisse chez vous que l'année prochaine, je vais avoir besoin de pneus, mais avoir des pneus. Je vais... Mais c'est pas parce que tu arrives en étant champion du monde qu'il faut que tu perdes ça. Mmh. Dans Drive to Survive, première entrevue de l'année, Hamilton, ah, c'est quoi le nom de l'équipe? Pardon? C'est quoi le nom officiel de l'équipe? C'est ça, je me roule à terre. Non, il a donné le mauvais nom de l'équipe, puis il s'est retourné vers un PR qui était derrière la caméra, puis il a dit, c'est quoi le nom officiel cette année? Parce qu'il avait changé un petit peu le... Sérieusement, tu n'étais pas plus préparé que ça. C'est... Tu sais, oui, la personne est importante, mais l'équipe les plus...
Ouais. Ben, je saute sur l'occasion. Hein. On salue nos commanditaires, Arnois, les stations Arnois et Ocaz, qui est son concessionnaire à Joncam, qui vend et achète des autos partout dans le mundo. Si vous voulez être commanditaire de l'émission ou un segment de l'émission, on est bien ouvert. Carl peut porter vos couleurs.
Avec grand plaisir.
Bon, hey, là, il y a du monde qui nous ont écrit, qui ont dit, c'est super le fun, on veut, vous autres, que vous passiez le questionnaire entre quatre roues. Fait que ça serait là, entre quatre roues. Fait que si vous vous demandez c'est quoi entre quatre roues, c'est assez simple, c'est un questionnaire qui est formaté. Puis, on pose ces questions-là à nos invités. La plupart des questions qui n'auraient peut-être pas été posées dans le podcast. Fait que on va se poser des questions. Puis, si vous êtes, il y en a que vous n'avez pas de réponse ou vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez passer.
On commence à comprendre le concept, Richard.
Non, mais je l'explique pour les gens.
Mais ils nous suivent tellement avec ferveur et enthousiasme qu'ils savent.
Votre première auto.
Suzuki Swift 1989. Okay. Achetée presque neuve, elle avait un an. Endossé par ma mère, qui voulait que ce soit la dernière voiture de ma vie parce que c'était économique, ça coûtait pas cher. Un an plus tard, 4 transmissions, une crémaillère, un moteur de changer.
C'est dans le podcast de qui que t'expliquais l'histoire de Suzuki-là?
Ouais, j'ai fait la même affaire avec mon Civic SI que j'ai eu après. Ouais. Entre les deux, j'ai eu un Jeep. Que...
mais allez voir ça, ça vaut à peine.
Ouais, hein. C'est 4 transmissions, un an plus tard?
Oui, mais c'est parce que c'est une par saison, ça manquait de puissance. C'était une ou trois mois, mais c'est parce que l'auto n'était pas très puissante. Fait que je me suis dit, pour maximiser l'accélération et les performances, ben si je peux sauver une fraction de seconde à tous les changements de vitesse, ce qui fait que la guerre avait d'affaires à rentrer. Donc, j'étais pas très délicat.
Ces gens-là, ils ont garanti l'auto malgré que, évidemment, tu sais, après deux, là, en six mois, Carl, tout le monde sait que ça n'a pas d'allure. Hein,
bien, je te dirais que le goodwill ou le lousse des garanties était beaucoup plus grand quand on était plus jeune. Ouais. Là, aujourd'hui, oublie ça.
Aujourd'hui, c'est encore
pas,
garanti, Chris, puis ils payent même pas.
Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, tu as des avocats qui sont payés à temps plein pour pas garantir.
Toi, Pat?
Moi, c'est un Nissan 300ZX 1986 Turbo.
Pardon, ton premier char?
15 ans et demi, même pas de permis en plein encours, mon homme. Avec le derrière bien carré puis le nez très, très profilé qui va pointer comme un oiseau carnassier. Là, tu sais, là. C'est vraiment l'image, tu sais, ça ressemblait à ça. Puis moi, j'étais bien fier de ça. Il y avait, je sais pas pourquoi, le même char, mais il y en a qui avaient le dash digital puis d'autres qui avaient un dash analogique avec des aiguilles. Moi, j'avais le dash digital, je me serais cru dans le K2000. Là, tu sais. C'était capoté, mais j'adorais ce char-là. J'allais à Polyvalente avec ça tous les jours.
Il n'y avait pas une Toyota qui avait été faite qui ressemblait à ça avant, dans les années 60, qui est devenue un char, c'est pas une 200 GT, qui avait cette espèce de nez-là un peu.
Oui, la colline. Il y en a au Japon beaucoup, mais il n'y en a pas ici. Là, quand je vois ces sites pour rêver un peu.
2000 GT, excuse-moi. Oui, c'est ça. C'est une 2000 GT.
Oui, c'est sûr.
Dans un des James Bond, d'ailleurs.
Ça vaut des fortunes. Là,
oui, je sais, mais je te parle de la shape de la voiture.
Mais moi, la shape, c'est plus années, genre 60, mettons 70, d'après moi, ça.
Oui.
Mais tu sais, là, c'est moi, c'était le début de. On est en 84-5-6. Fait que t'as l'intégration des matériaux de plastique.
Oui.
T'as les dashs qui sont plus, justement, bon marché qu'avant. Puis t'as une coupe un peu. T'essayes de te démarquer. Tu sors des rondeurs, puis tu t'en vas dans ce qui est angulaire. populaire, puis ce qui est plus audacieux au niveau du design. Là, fait que c'était carrément ça. Puis ça, ben, ça faisait la suite logique avec les Datsun, 280Z, 240, etc. Tout ça. Fait qu'on était là.
Pis... C'est ça, je parlais de la Datsun, moi, 280, qui ressemblait plus à la 2000.
La 240, 260, 280.
Ça, c'était mythique, ces chars-là.
Ouais. Complètement. Tellement qu'il y a une communauté, c'est comme Z-Car qu'on appelle ça, la plateforme Z, ou peu importe, je sais pas c'était quoi les détails techniques de l'époque, mais moi, je sais juste que c'est un char propulsion, un coup de court avec un long porte-à-faux, c'est trippant chauffé, t'avais un scoop sur le hood, c'était 200-ish chevaux. Pour un gars de 15 ans, c'était bien en masse.
C'était quasiment trop.
C'était aujourd'hui encore le nombre d'HP qu'on a, tu sais. J'avais vu ça sur... Je sais pas sur quoi j'avais vu ça. On avait été chercher ça à Québec. En fait, j'avais déclaré mon amour de cette voiture-là à mon père. Puis il m'avait dit, « Ben non, c'est trop puissant. Tu peux pas avoir ça. » Tu sais, j'étais comme, « Voyons, je conduis en cachette avec toi depuis genre 4 ans, tu sais. » Fait que je te laisse pas si puissant que ça. Puis il veut pas, ben, on a un peu d'expérience pareil malgré tout. Puis il y a un moment donné, ben, lui, il travaillait à Québec à ce moment-là, puis il est arrivé un soir, style un vendredi. Fait que là, il avait appelé ma mère, qu'elle check avant dans la vitre que lui arrivait. Puis il avait tourné le coin de rue, il est arrivé avec la 300ZX. En surprise, c'est comme finalement, je te l'ai acheté. Fait que j'en avais payé, il me semble, une partie, puis lui, l'autre. Mais c'était comme 6 mois de temps parqué dans le cours à le regarder, puis à en rêver de la prendre. T'sais.
Ah, OK, tu l'as pas pris live.
Non, j'avais 15 ans et demi.
Ah, OK. Ouais. Puis ça faisait 4 ans, anyway, tu conduisais à cachette.
À peu près.
Fait que tu l'as essayé à cachette.
Non, c'était pas en cachette.
C'était au-dessus de tous. Ouais. Mais c'est ça, hein? C'est enfant unique. C'est...
Mais ça va être dur à battre, ça, Richard, pour le premier retour.
Moi, Honda Accord 86 hatchback.
Ouais, mais tout que des bons petits chars, ça.
Manuel.
Ouais, c'est ça.
Nice.
Que j'ai bien aimé aussi, que j'ai vendu à mon frère plus vieux, celui du Winnebago, dont j'ai parlé tantôt, qui a gardé un bon bout de temps aussi. Une voiture fiable. Pas tant de guts que ça, mais en même temps, je pense que j'en avais pas besoin pour... apprendre à conduire comme du monde, puis tu sais, vivre mes.
Ben, mon chum Guillaume Lavoie avait ça, puis honnêtement, ses parents avaient ça, ils ont légué, puis on a eu du plaisir avec ça. C'est indestructible. C'est la carrosserie qui rendait l'ombre là-dessus, parce que la mécanique, puis c'était le fun à rouler, sérieux, encore de ce temps-là. Tu sais, moi, mon oncle avait un EXR, genre 91, j'en voulais un, avec les lumières carrées qui ressemblaient à des boîtes de Kleenex, un peu. Là,
exact, mais moi, c'était ça. C'est ça que j'avais à l'avant, là, les quatre.
T'avais pas les phares qui popaient comme un prélude.
Non, ça, c'est
les
lumières. Plus jeune, ça.
Ça devait être. Début 90, ça se peut-tu?
Ça se peut, ouais. Mais je ne suis pas bon avec les années, mais mon frère Denis avait une Accord plus vieille encore. Et mon frère Denis, qui est pas le gars du Winnebago, c'est l'autre entre les deux. Puis lui, c'est monsieur, tout ce que j'ai, c'est la prunelle de mes yeux et j'en prends soin. Ouais. Ce char-là était droite, comme pas un des Accords, pas une goutte de rouille. Il avait mis du pitch sur le plancher pour être sûr que ça rouille pas. Puis il avait remis des...
Un consommateur avisé.
Oui, lui, il savait comment ça fonctionnait. OK. Combien vous avez eu de voitures dans votre vie? On va commencer avec toi, Carl.
À peu près entre 150-170-ish, dans ces eaux-là. J'ai toujours eu... 5-6 autos en même temps, puis quand c'était pas des motos, puis un paquet d'autres choses. Une maladie mentale, on va
mais
se le dire.
Excluant
là.
Les chars de compétition?
Tu peux mettre les chars de course là-dedans, ouais.
OK, mais si on les exclut?
150, facile, là. Oui, 150 plus. Ouais, c'était intense, puis souvent, puis j'ai déjà eu un speed shop il y a des années, où est-ce qu'on modifiait des autos. Fait que j'achetais des autos de façon compulsive, puis là, je me disais, ben c'est cool d'avoir plein d'autos, parce que je peux toujours en avoir une que je suis en train de modifier, mais souvent, quand je commençais à sortir, les clients voyaient l'auto, puis disaient, hey, wow, tu sais, je la veux, je l'achète. Merde, je viens de la finir. Ouais. Et les offres étaient intéressantes. Je me rappelle d'une fois, encore une fois, je suis réhabilité, il y a un disclaimer en bas qu'on va rajouter, mais j'arrive à mon entreprise beaucoup trop vite et j'arrive un peu en dérapage. Fait que je lance l'auto, tu sais, le nez du mauvais côté, j'enfile le dérapage pour rentrer du bon bord, je rentre dans l'entrée, ça drift, puis là, je la re-swing l'autre bord, paf, je me stationne direct entre les lignes.
C'est
et là,
c'est quelqu'un dit un peu en dérapage, lui, c'est vraiment beaucoup en dérapage.
Quand même pas pire. Et là, il y a un gars qui sort du commerce puis qui arrive vers moi, mais d'un pas décidé, je dis, bon, ça y est, tu sais, gros innocent, ça n'a pas de bon sens, c'est dangereux, il a raison, tu sais, je vais juste m'excuser. Puis je débarque l'auto, il dit, je le veux. Je dis, pense que tu ne m'as pas vu arriver. Il y a de quoi que. Il dit, non, je le veux, il est parfait ton char. OK, j'ai vendu l'auto.
T'es conscient que c'est un peu le gars aussi qui a fait ça. Hein? Je veux dire, le char, il ne le fait pas tout seul.
Ah, ça, en tout cas, visiblement, okay. Ça l'a aidé. Mais oui, c'est, écoute, c'est une maladie, c'est compulsif. J'en veux, ça n'a aucun sens. Puis plus que j'essaie de me guérir, à un moment donné, je disais à ma blonde, bon, ben là, j'en mets une à vendre, c'est assez. Puis en attendant qu'elle se vende, je n'avais acheté deux nouvelles. Puis là, elle disait, mais t'as rien vendu, puis t'en as deux de plus.
Hein?
Ouais, si tu vois ça de même, mais comme je suis prêt à vendre celle-là. Fait que c'est.
Tu deviens quasiment comme un toxicomane, tu sais.
Complètement.
À inventer, je te jure, là, inventer des menteries, à dire à tes conjointes, ton conjoint, de non, mais celle-là, c'est dans le but de la revendre, faire de l'argent. Chose, il m'a dit que ça valait tant. C'est vrai, faut que ça prenne un sixième sens.
Mais tu as un point commun, parce que moi, ce qui m'arrête dans mon vice, bon, tu as l'argent en partant, c'est normal, mais tu peux toujours travailler plus fort, puis faire de l'overtime, puis avoir une job de plus, puis... Mais ce qui m'arrête, c'est l'espace. Ouais. Fait que là où un toxicomane, à un moment donné, ce qui va l'arrêter, c'est soit sa santé, soit l'argent. Moi, ce qui m'arrêtait, c'est de dire, bien là, à un moment donné, là, j'en ai partout d'entreposer. Chez nous, c'est plein. Il y a des motos partout. J'ai plus de place à rien faire. Ah, là, j'ai plus le choix. Faut que j'en vende.
Fait que je pourrais te présenter un gars qui a loué un entrepôt 10 000 pieds carrés, mais c'est bébelle, moi.
Toi, ça?
Oui.
Ça... Tu sais que moi, la dernière maison qu'on a achetée, on l'a acheté pour le spot, mais aussi parce que sur le terrain, j'avais assez de place pour construire un garage 34 par 36. Là. Ouais. Bien pas si belle que ça, la maison. Mais la place était là pour le garage. Je fais comme, OK. Ça m'a incité. Ben,
drame de ma vie au chalet. Moi, je voulais me faire le garage de rêve. Là, je suis en train, tu sais, tout le terrain est prêt pour ça. C'est parfait. La ville m'a donné le droit de faire 20 par 24. Fait que par le temps que j'avais juste rentré, les quatre roues, les gogosses, la souffleuse. Ben là, j'ai pas de la place à rentrer aucune auto. Puis la seule raison pourquoi je peux rentrer une remorque, c'est que j'ai une remorque en aluminium qui se replie. Fait qu'elle est tout petite, tu peux la mettre d'un coin du garage. Mais oublie ça, il y a pas une auto qui rentre dans le garage. Fait que j'ai de la peine.
Ben, fait que les gens qui ne trippent pas ces autos, probablement que présentement, ils nous écoutent pas, ils nous regardent pas. Mais s'ils nous écoutent, ils doivent faire comme, oh, il y a des beaux problèmes, eux autres. Hein? Il peut juste faire un garage, mais faire un 4.
Mais c'est
les
grave,
gens qui,
là.
Ils ont cette maladie-là, ils comprennent.
Mais tu fais ta vie en conséquence, parce que cette maladie-là, elle est originelle. Tu sais, on dirait, moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était une naissance, sûrement la même chose pour toi.
Ah oui, ben oui.
Puis là, éventuellement, tu fais tous tes choix de vie en conséquence. Tu sais, t'achètes la maison en conséquence, tu vas choisir un travail plus payant en conséquence, mais que t'aimes moins au pire. Tu vas acheter de quoi dans le but de la revente pour arriver à quelque chose, à une étape ultime que tu vises. Mais fait que là, on arrive à un certain âge, puis oui, on parle de ça, mais il y a eu un avant, puis avant... Hein, il y a déjà eu des chars qui ont couché dehors, puis qui ont pourri dans la cour, puis qui ont rouillé là, puis qu'on n'a pas eu les moyens d'entretenir finalement, qu'on a envoyé à don, puis etc. Des belles histoires, il y en a, mais des histoires d'horreur.
Des autos qui ont eu un bris que tu n'avais pas les moyens de réparer, puis qu'il y a un requin qui connaît la valeur de l'auto, puis qui fait, ben là, elle ne marche pas. T'as-tu les moyens de la réparer? Non. Moi, t'as l'acheté ce prix-là. Ouais, mais ça vaut 12 fois plus. Ouais, mais t'auras pas les moyens de la réparer.
Tu vas-tu le faire, toi? Non.
Tu vends l'auto avec la larme qui coule en disant, c'est épouvantable, tu sais, je viens de perdre ce rêve-là, mais ça. Ça fait partie du processus, là, même si c'est difficile.
Et puis moi, j'ai des enfants plus vieux que vos enfants, vous autres. C'est des adultes. Hier encore, mon gars a une crevaison. Il faut qu'il rejoigne ma fille. Ils sortent ensemble, c'est ça. Ils restent pas loin de chez nous. Fait que j'ai dit, ben mets de l'air dans ton pneu si tu peux. Puis viens-t'en chez nous, pogne l'autre char, puis prends le mien, puis viens-t'en. Fait que vas-y. Fait que c'est ce qu'il a fait. J'ai toujours, on dirait
un
toujours
backup.
Un backup quelque part pour aider les enfants quand il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Ça, c'est quand ils ne déménagent pas et qu'ils n'ont pas besoin du pick-up. Bref, combien d'autos, toi, Pat?
Moi, j'ai ma liste, dans le fond, je l'ai arrêtée quand je suis devenu propriétaire et j'ai ouvert Ocaz.
Ouais.
Et ça, c'est là 7 ans et demi. Mettons, j'avais eu 74 chars.
Ah, quand même.
C'est quand même pas mal.
Oui, mais c'est sûr que là, évidemment, avec le concessionnaire, ça...
J'en ai toujours eu un peu. Mon objectif, c'est que moi, je roulais beaucoup dans les dernières années. Je travaillais à Montréal, fait que je partais le dimanche soir du Saguenay. Je montais à Montréal. De Montréal, pendant la semaine, je devais représenter différents établissements à me promener.
Okay.
Puis je retournais, tu sais, pendant 50 ans, j'ai fait ça. Fait que c'était une histoire de 90 000 kilos par année,
quand même, hein?
Mettons. Fait que si tu prends une voiture, ben tu sais, tu scrapes la valeur... dès que tu fais un an. ça n'a pas d'allure.
Ouais, c'est vrai.
Mais tu veux un certain niveau de confort vu que tu fais beaucoup de route. Fait que la seule solution que j'avais trouvée aussi pour les enfiler dans 5 ans, j'avais toujours 5-6 en même temps. Si je pognais un deal, c'est drôle que tu parles de Tercel tantôt parce que moi, j'étais un gars qui j'ai eu des beaux chars, là, mais à la fin, je me suis mis à triper ces Tercel. Est-ce que c'est hot, un Tercel, il en reste plus? Fait que là, j'ai acheté plein de Tercel, puis là, j'ai plein. Pas de millage, ben plein, genre 6 Tercel, mettons. Plein...
C'est plein, ça, oui.
Ben là, je me disais, ils n'ont pas de millage. Fait que moi, c'est pas long faire 20 000 kilos. Là, ça prend un mois, 20 000 kilos de char.
Okay.
Quasiment, tu sais. Fait que là, je ramassais le Tercel bas millage, je le roulais. Après ça, je le flippais. Le prix, je l'ai payé. Fait que j'ai roulé gratis. À un moment donné, j'étais écœuré de rouler en Tercel. Fait que là, j'ai acheté des Camry. T'sais, j'ai flippé les Camry à faire ça. Puis je perdais jamais d'argent, tu sais. Fait que c'est ça.
Mais tu roulais gratis.
Carrément.
C'est ça. Tu trouvais des bons deals.
Fait que tu l'achètes.
D'ailleurs, il y a des gens qui nous ont écrit qui veulent avoir de tes trucs pour vente et achat de véhicules, mais ça va tantôt.
Mais c'en est un, tu me le rappelleras, ça. D'acheter bas millage puis
d'en acheter 6 de la même sorte en même temps, c'est-tu ça?
Son budget, c'est 20 000, achète 12 chars à 2 000. Ça va...
Moi, j'ai eu 30 à 40 voitures à peu près dans ma vie.
Quand c'est même. Plus la moyenne des ours.
Ouais. Mm-hmm. Puis, mais l'affaire, c'est que, je pense que je vous l'ai raconté, mais peu importe. Ma blonde, avant que je la rencontre, elle avait fait une liste de ce qu'elle voulait chez un gars. Mm-hmm. Puis dans la liste, il y avait, je veux un gars qui a une voiture. Mais ça fait longtemps, là, on parle d'il y a 30 ans. Là. On était dans la jeune vingtaine. Puis... J'avais pas d'auto quand je l'ai rencontré. J'étais entre deux. Je venais de vendre mon auto. Puis... Fait que j'étais en vélo. On était à Rouyn-Noranda. Puis j'allais travailler. Mais ça n'a pas été long. Mais quand on s'est rencontré, j'avais vraiment juste un vélo. J'étais comme. C'est le moment de ma vie où j'ai pas eu de char à partir de 16-17 ans. Mais je me suis surpris. C'était ça, dans le fond, que je disais à ma blonde.
C'est con.
Je voulais devenir encore plus l'homme de ta vie.
Fais-moi confiance, je m'en vais au top.
C'était la seule affaire que j'avais pas cochée. Là, je me reprends. Chaque fois que j'achète un char, je dis, chérie, je suis l'homme de ta vie. En tout cas, bref, on continue. Votre meilleur auto que vous avez eu?
Ah, ça, c'est facile.
Ben, c'est tout comme...
Ah ouais, Carlo?
Mon Aston Martin Vantage V8 manuel.
Meilleur? T'as peu. Il n'a pas dit plus le fun que t'as aimé le plus. Il a dit meilleur.
Ah, j'ai adoré. Moi, avant d'acheter ça, c'était un de mes rêves. Parce que faut le dire, moi, j'ai acheté beaucoup d'autos thématiques à cause de James Bond. Ouais. Je suis un fan fini des films de James Bond. Okay. J'ai eu un Lotus Esprit blanc. Devine d'où c'est que ça venait, cette idée-là.
Il y a là-dessus dans l'eau?
Non. Puis un Lotus, tu veux pas aller trop dans ces années-là, dans la pluie. C'est même pas idéal non plus.
Okay.
Mais j'avais fait bien des recherches.
Excuse-moi, je t'interromps. Mais Pat, vous qui nous écoutez... Faut que je vous raconte une anecdote de Lotus avec Carl et moi. On y revient tantôt. Je le prends en note, pas l'oublier. Ok, on continue.
Mais bref, j'ai été voir beaucoup sur des forums européens, puis je me rendais compte que la part des gens qui parlaient du Aston Martin Vantage, surtout le V8 manuel, j'avais l'impression de lire quelque chose, c'est Mustang 5 litres au Québec. Ouais. Les gars disaient, plus beau temps, mauvais temps, tu pars ça, tu mets ça de travers dans la boucane, c'est pas tuable, c'est solide. Fait que je me suis dit, ben c'est l'auto parfaite pour moi. Elle est extrêmement belle parce que moi, me fous un peu du regard des gens envers mes véhicules. Ce que j'aime, moi, c'est je sors dans l'entrée, je la vois puis je fais...
Toi, tu tripes-tu?
Toi puis moi, aujourd'hui, on va avoir du fun. Il y a quelque chose, il y a une émotion, il y a quelque chose.
Tu te rappelles-tu de la campagne publicitaire d'Aston Martin concernant les véhicules pre-owned?
Oui.
Tu t'en souviens?
Une des meilleures pubs ever.
C'est...
Qui ne passerait plus aujourd'hui?
Non, ça reste que c'était tout qu'un coup de marketing. Tu avais une belle Aston, puis tu avais avec une femme légèrement vêtue, avec la jambe levée dessus, puis ça disait « You know you're not the first ». But who cares? Aston Martin pre-owned. C'était incroyable, tu sais.
Ça, c'était magique, mais tu sais, cette auto-là, zéro bris mécanique, rien. Avant de mettre, parce que j'ai fait faire des jantes sur mesure ultra légères qui rentraient là, sur le bord de l'aile, mais avec les roues et pneus d'origine, là, tu mettais ça de travers, mes amis, là. C'était n'importe quoi à quel point c'était le fun, facile à conduire.
C'est pas lourd, non?
Non, c'est surtout le Vantage V8, c'est un moteur qui n'est pas très lourd en partant. Okay. Il y a énormément d'aluminium sur l'auto, châssis ultra rigide, était parfaite. Là. Un silver métallique à l'extérieur, les sièges noirs avec la petite couture, l'Alcantara gris.
Puis honnêtement, c'est tout un morceau de char pour le prix vendu. Que tu peux payer ça aujourd'hui. T'sais.
C'est fou.
C'est capable d'accéder à une... Ben, ils sont en train... Hagerty ont sorti un rapport, ils en sortent un tous les années, là, comme quoi les Vantage V8 manuels vont monter de valeur au fil des années.
C'est parti.
C'est le moment d'acheter ça, présentement. Mais ça reste que, là, pas longtemps, à 45, 50, 60 000, t'avais tout qu'un morceau, puis tu pouvais le revendre. Puis effectivement, que ça coûtait bien moins cher d'entretien que ce que les gens penseraient.
Oui, okay. Exact. Ouais. Moi, je l'ai acheté, le marché était plus haut. Je l'ai revendu, le marché était plus bas.
Ah,
mais
un beau mot.
Fallait changer les portes, les fenêtres chez nous, puis d'autres affaires dans la cour. Fait que,
fallait qu'il y ait un sacrifice.
Ouais, mais c'est celle-là, elle me fait. J'ai une émotion avec chacun des véhicules que j'ai eu ou à peu près. À toutes les fois que je les ai vendus, il y a quelque chose, il y a une douleur, il y a une piqûre. Celle-là, là, faut pas trop que j'y pense longtemps, parce que je viens émotif. Là.
OK. Pat, toi, ta voiture que tu as eue, que tu as préférée?
Mais puisque Carl a préféré, tu sais, c'est bon, le meilleur char.
Ta meilleure voiture.
Ouais. Ouais. Le char que j'ai préféré, honnêtement, d'un point de vue accessible financièrement, que je trouve qu'il n'y a à peu près rien qui existe d'équivalent sur le marché présentement, c'est l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.
Oh, ouais.
Tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu des M3, j'ai eu, dans le fond, de ce qui est compétiteur, j'ai eu des C43 MG, 603S. La Giulia, elle a une sonorité, mais totalement envoûtante, puis un comportement routier qui est carrément différent des autres, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est un driver's car, c'est un auto pour les enthousiastes. Ça met le pilote en valeur, vraiment, puis ça communique. D'abord, c'est un habitat qui est petit. J'aime les chars que l'habitat est petit, puis qu'on n'a pas l'impression que c'est bardé de gadgets, puis de portes ça dépaisse, que quand ça ferme, ce qui nous rappelle un peu plus ce qui est vieux, tu sais.
Ouais.
Fait que j'adore les Giulia à cause de ça. On l'a eu pendant 2 ans et demi. Je l'ai acheté flambant neuf, tu sais. Fait que je viens juste de la vendre. J'ai adoré ce char-là.
C'est-tu fiable, ça, les Alfa Romeo d'aujourd'hui?
Moi, j'ai eu zéro problème avec ça. Puis avant d'avoir la Giulia, j'ai eu 3 Stelvio, Quadrifoglio aussi. Okay. J'ai eu zéro problème avec ça, genre 45 000 kilos.
Okay.
Fait que la fiabilité, moi, je vais répondre de façon générale. Les voitures en 2024 sont fiables.
OK.
Sont fiables. Fait que là, maintenant, un coup, là, oui, il peut arriver des problèmes, mais est-ce que le réseau de concessionnaires prend suffisamment ses responsabilités pour sécuriser les clients? Est-ce que le manufacturier fait une bonne job pour se détacher de la... Tu sais, je veux dire, Volkswagen, en 97, là, c'était la pire poubelle que tu pouvais acheter. Puis là, quand tu checkes les bilans européens, c'est pas mal la compagnie la plus fiable qui existe avec Toyota, tu sais. Fait qu'on est capable... À un moment donné, on peut passer à d'autres choses, puis on reste souvent collé avec des idées du passé. Tu achètes un char des années 60 qui pisse l'huile, que les pièces de remplacement, c'est Fiat, bien, c'est sûr et certain que c'est une catastrophe. Ferrari l'était, d'ailleurs. Ça n'a pas empêché les gens d'en avoir, tu sais. Faut juste que tu saches dans quoi tu t'embarques avant d'acheter un auto. Mais la bonne nouvelle, c'est quand tu achètes ça usagé, ces chars-là. Tu sais, je veux dire, t'achètes un Jaguar usagé, mettons, un XKR, un F-Type. Ben, le char, au lieu de valoir 125 000, ben, tu vas le payer 60, 50, 60. Il y a 3 ans, t'as tout qu'un morceau de char, là.
Ouais.
Mais t'achètes ça, ce prix-là, parce que le public est encore resté avec l'idée que c'est pas fiable. Ils savent pas que c'est nécessairement que c'est un 5 litres Ford Supercharge, puis que tu peux battre ça comme un Mustang, puis faire du drag l'été au complet. Il y a un autre chum qu'on connaît qui fait ça.
Ouais. Avec quoi? Avec une Jaguar?
Avec une Jaguar rendue rose, maintenant.
OK. Ouais. Ah ben ça a l'air de quelqu'un d'intéressant.
Non, mais c'est du matin au soir. Puis ce char-là, il l'a acheté de quelqu'un tellement piqué. Il avait 3000 km, tout le temps frotté, tout le kit. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On met ça sur la traque. Ah ouais, donc. En tout cas, bref, une parenthèse encore pour dire que j'ai adoré ce char-là.
OK. Ouais. Moi, je pense que ma meilleure auto, puis ça va selon où tu es rendu dans la vie aussi. J'avais 2 jeunes enfants à l'époque et c'était une Passat W8 Station Wagon.
Wow! Ah,
ça, y a quasiment
un wagon, déjà là, on était motifs les deux.
Absolument.
Ouais, ça, c'était impressionnant parce que, bon, fait tu sais, il y a le côté pratique. De un, c'est un station wagon, fait que ça, c'est cool. Intérieur en cuir, ça, c'est le fun aussi. Il y a un certain luxe, pas trop, juste assez. De toute façon, tes jeunes vont cochonner tes bancs en arrière. Fait que, tu sais, tout est correct. Mais le W8 puis le 4Motion.
Non.
Hey. Hey, ça, c'était quelque chose parce que la beauté. Si je me rappelle bien, c'était 70-30 en arrière. Donc, 70 en arrière, 30 en avant, quand tu faisais rien. Puis quand tu pesais sur le gaz, tu avais l'impression que c'était une propulsion, mais c'était un 4 roues motrices. J'avais eu avant ça 2 CRV.
Avec Christian. T'ailleurs, mon homme?
Oh, non, mais même l'hiver, il n'y a rien qui battait ça dans la neige, dans sa glace. Ça fendait la route.
C'est un train routier, c'est un tank.
Pas de sens.
Ouais.
Pas de sens. Et le son était le fun aussi. C'est un sleeper un peu, tu sais, dans le sens où, au niveau de la, comment dire, de la shape du véhicule.
Ça affiche pas ce que c'est.
Non,
là,
c'est ça. Mais souvent, j'avais du monde, genre des kids, je dis des kids parce que j'étais un père de famille quand j'avais ça, qui passaient à côté de moi et qui me faisaient un pouce dans les airs pour leur dire « Moi, je sais. »
Ouais, c'est ça.
Je sais que tu as un W8 puis que c'est ça a l'air de rien. Mais moi, je le sais. T'sais.
Anecdote, ce moteur-là.
Oui.
Un de mes amis travaillait chez Volks Motorsport fin 90, début 2000. Je vais le rejoindre en Allemagne. On est dans les bureaux, les ateliers de préparation chez Volks Motorsport. Tu as un paquet de véhicules prototypes qui sont là, qui ils ont-tu vu le jour, ils ont-tu pas vu le jour.
Okay.
Puis il y a des caisses de bois, dont deux caisses qui sont ouvertes. Je m'accote là-dessus, puis je regarde. Tu sais, j'ai déjà vu des VR6, j'ai déjà vu un paquet de moteurs, mais là, je regarde ça. Bien bizarre, l'architecture de ce moteur-là.
C'était pas sorti?
C'était pas sorti pantoute. Il y a un ingénieur qui arrive.
Toi?
Il me dit, moi, moitié allemand, moitié anglais, mais toi, t'as jamais vu ça. Ça existe pas.
Okay?
Il a remis le couvert. Je n'ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui.
Oh, wow.
Donc, j'ai quand même gardé le secret pendant pas loin de 25 ans.
Ouais,
ouais, je suis content wingman pour par excellence. Je vous dis, stressez-vous pas, ça sortira pas. Mais oui, j'avais vu ce moteur-là puis d'autres mécaniques qui ont vu le jour plus tard. Donc, des fois, c'est le fun d'avoir cette petite confiance-là. Là.
C'est. Ok. T'as un peu, je cherche mes questions, là, bouge pas.
Mm-hmm.
Ah ouais, votre meilleur road trip que vous avez eu. Que tu regardes ma feuille, Pat.
Ouais, c'est pas, ça. Essaye de devancer les questions, voir laquelle qui m'intéresse le plus.
Vous avez droit à passer, hein?
Moi, il y en a deux. Il y en a vraiment deux. Il y en a un qui c'est un contrat que j'ai eu aux États-Unis. Fait que t'es payé pour te promener partout aux États.
Ça aide à aimer ça.
Et on commençait au Michigan. Après ça, on allait en Pennsylvanie. Puis on conduisait les véhicules. Fait que c'était un contrat de pro driver où est-ce qu'on faisait des événements dans plusieurs villes américaines. Mais dans le cadre du contrat, tous nos déplacements, bien, fallait aller trouver des endroits spectaculaires pour prendre des photos.
Oh, wow.
Donc, on travaillait à chaque endroit, mais on était payé nos travel days pour aller prendre des photos.
C'est cool, ça.
Fait qu'on a fait Michigan, Pennsylvanie, New York. On a descendu jusqu'en Floride, dans le coin de Boca Raton. Après ça, on a remonté dans le coin de, voyons, Collins, je veux le dire, Bourbon Street, toutes ces histoires-là. Après ça, oui. Après ça, le Texas, fait que j'ai été voir Gaz Monkey Garage. Puis on a fini, on a fait toute la route 66, la partie intéressante dans le désert, puis on a terminé en Californie.
Wow.
Donc, plein d'endroits extraordinaires. Quand on a quitté la Floride, il venait d'avoir un ouragan. Ça venait de se passer quelques jours avant, fait qu'on a pu passer, mais c'était... Tu sais, on voit ça aux nouvelles, là, la dévastation d'un ouragan, mais de voir là, les pancartes de rue là, qui ont l'air petites, quand t'es pas loin, là, les poteaux, c'est immense qui tiennent ça. Là. Ouais. Ça a été arraché, c'est parti.
Comme si de rien n'était, là.
C'est tordu comme des pretzels, les arbres tombés partout, puis ils sont avec les scies mécaniques, puis ils débitent les arbres sur le bord de l'autoroute, tasser ça.
À maintenant que t'en parles, ça a l'air vraiment d'un beau road trip.
Bien, sans face d'avoir vu ça, c'était spectaculaire. Puis de voir les corridors, où est-ce que ça a passé, c'est fou. Puis après ça, d'aller se taper la route 66... C'est incroyable. Tu sais, Michel Barrette m'en parlait tout le temps. Puis il disait tout le temps, hey, Carl, faut qu'on le fasse, Puis bon, là, je l'ai fait dans le cas de la job, mais je te le dis, Michel, on va le faire pour vrai. Là, ça, c'est pas inquiétant. Puis l'autre meilleur road trip, c'était avec Pat.
Ah ouais.
Puis c'était tout simple, organisé, le classique. Pat qui appelle, hey, on s'en va faire un voyage de moto. Cool, on y va. Quand? Telle date, c'est beau. Puis finalement, il dit, t'as organisé ça le fun. Fait qu'on arrive là, un de nos amis Pascal, on a déjà parlé rapidement, mais il arrive avec le pick-up, avec la remorque. Il y a une moto de rechange. Fait que comme ça, on peut s'amuser. Ou s'il y a un bris mécanique, on a une moto de plus. On est trois gars qui roulent. Quel voyage extraordinaire
la moto,
dans la
moto, ça donne une dynamique différente aussi, tu sais. Moi, ce que je trouve le cool d'une moto, c'est que quand tu circules avec, surtout nous, on est partis en soirée, mais tu vas sentir l'effet du soleil le jour, tu vas sentir la fraîche le soir. Puis rappelle-toi, quand on commençait à descendre pour aller vers le lac George, au lieu de prendre la highway, on a pris la petite route. Fait que c'est vraiment gauche, droite, dénivelé, déclive. Puis là, tu rentres dans une forêt d'épinettes ou de pins. Fait que tu sens les conifères. C'est vraiment... Tu peux vraiment le ressentir. Puis quand tu arrives à ta destination, puis que nous autres, c'était l'objectif, c'était d'aller avoir une collection privée d'auto, honnêtement, la plus exceptionnelle que j'ai vue parce qu'elle est inconnue du public. Ouais.
100% privé.
On a réussi à visiter ça parce que l'ancien crew chief de Charles Leclerc, je pensais à lui dans 30 secondes.
J'apprécie.
Ça fait plaisir, t'es aussi beau.
You're right.
Ceci étant, quand on est arrivé là-bas, son ancien crew chief nous a fait visiter puis expliquer chaque char, puis que c'est fonctionnel. Tout. Fait que déjà en partant, le road trip était...
Ouais, t'es chargé de... bonifié, ouais.
Fait que puis on est parti de là, on a fait Lac Placide, puis on est monté en haut. C'était écœurant. C'était écœurant, ça a pris trois jours, sérieusement, puis c'était vraiment hot.
On a roulé fort aussi. On a eu du fun. Il faut dire que ma moto, j'avais un Honda Africa Twin, moto aventure à ce moment-là. Puis j'avais trois lumières de rallye laser.
Hein, c'est-tu l'enfer,
Pat
ça?
Est un bien meilleur rider que moi en moto. Fait que Pat était en avant, puis il ouvrait la route. Puis moi, à ce moment-là, j'avais pris ton KTM. Je sais pas, ouais, je te suivais avec le KTM ou le Ducati.
T'avais le FJR, je pense. Ça se peut-tu?
Ah non, j'avais. Non, c'est KTM ou Ducati pour ce bout-là. Le FJR, je l'ai pris une autre journée. Mais on roulait beaucoup trop. Puis il y a eu cinq chevreuils qui ont traversé.
Oh,
pas de lumière de rallye. Les deux ont fini par la journée. C'était hallucinant. Donc, un chevreuil que je me rappelle qui a traversé au milieu de la rue. Il a changé d'idée. Il a fait ça à drift avec les sabots. Je le voyais patiner pour essayer de se virer de bord puis repartir. Fait que je me rappelle qu'à un moment donné, t'es ses freins, puis à un moment donné, non, pas le choix. Gaz au fond, on passe.
C'était rendu 11h de la nuit. On se dit, on arrête-tu, on continue. Finalement, on se ramasse dans le genre d'un parc national. Oublie ça, là. Pas de service, pas de téléphone, pas de cellulaire, pas de gaz, rien.
Et notre camion de service, c'est sur l'autoroute.
J'étais content d'avoir ces lampes-là. Ouais. C'est la première fois aussi que je pouvais expérimenter une moto dans le noir qui éclaire autant. C'était incroyable, tu sais. C'est ce qui me donne le goût de mettre les mêmes lumières sur mon fuseau dont j'ai
et
parlé
voilà.
tantôt.
Fuseau Mitsubishi.
C'était comme... Soleil, lève-toi. Incroyable. C'est son chum qui m'a référé, qui a installé ça là-dessus. En pleine nuit, tu pognes un coup de soleil. Épouvantable.
Moi, c'est niaiseux à dire, mais c'est un road trip tout seul. Parce que j'étais, encore une fois, jeunes enfants. Je vais voir un de mes chums qui joue au hockey en Autriche. Wow. Et ça donne que pendant le temps que je suis là, il est échangé. Ou en fait, il est comme clairé. Fait que je fais comme, ben écoute, j'adore ce qui... J'adore pas ce qui t'arrive, mais moi, je suis en vacances. Hein, fait que moi, y aller. Fait que je suis descendu de l'Autriche. J'ai dit, je loue un char, puis je descends en Italie. Puis oui. On verra où la vie va m'amener.
Les passes de montagne, c'est...
Voilà. Fait que là, j'étais jamais tout seul, parce que deux jeunes enfants, une femme, tout ça. Là, j'étais tout seul. Et je voyageais tout seul. Puis je disais, moi, là où la vie m'amène, j'arrête. La musique, les montagnes, tout ça, je m'en allais. Écoute, je chantais, je n'étais pas pressé. Il n'y avait personne qui m'attendait. Et à un moment donné, je vois Vérone, ville de Roméo et Juliette. Ma fille s'appelle Juliette. Je fais comme, wow. That's where I'm going! Dans un coup de volant. Arrive dans le vieux Vérone. Puis, ben voilà, il fallait que je revienne toutefois sur Munich, parce que mon vol de retour était sur Munich. Le lendemain, c'était un peu plus long. De Vérone à Munich.
Tu regrettais ton enthousiasme de la veille.
Ben non, mais il ne faut rien regretter, mais ça a été un des beaux trips. On continue.
Anecdote,
oui, vas-y.
Je pars de l'Autriche, je m'en vais en Italie, justement, par les Alpes. C'est beau. Tu le sais, c'est partout où tu arrêtes, c'est dur d'avoir une conversation parce que c'est tellement grandiose qu'on dirait que tu peux quasiment pas parler, tu peux pas le décrire, tu peux pas le prendre en photo, mais on arrête dans une ancienne guérite de douane qu'il y avait du temps de la guerre, qui est devenue une espèce de petite boutique où est-ce que tu peux acheter des paquets de gomme, des bouteilles d'eau. On rentre, le monsieur est bête. Mais il est bête. Il nous regarde pas, mais attitude épouvantable. Fait que je fais le tour, je suis avec un des représentants de BMW, qui est un gars de relations publiques, qui était avec moi dans l'auto. Fait que nous autres, on jase un peu en anglais. Puis à un moment donné, je lis quelque chose en français. Puis je suis surpris de voir un pamphlet. Fait que je le lis en français. Puis le monsieur, il dit, vous êtes pas américain? Je dis, ben non, moi, je suis québécois. Lui, il vient de Toronto. Puis là, il me challenge. Êtes-vous américain? Je dis, non, je suis canadien. Je peux te montrer mon permis de conduire. Je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé. Je savais pas que vous étiez canadien. Vous allez où? Ben, on dit, road trip. On avait une journée de libre dans le voyage. Puis... T'sais, on était les deux seuls qui voulaient se promener en auto. Fait qu'on descend. Là, il dit, attendez, il ouvre les cartes. Ça, c'est un petit restaurant d'une crête de montagne sur le bord de l'eau. Allez dîner là. Il nous entoure ça. Okay. Il nous donne la carte, deux bouteilles d'eau. Puis là, on a fait, mais on vous doit combien? Non, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Passez une belle journée. Fait que moral de cette histoire, s'il y a cette attitude-là avec tous les Américains, ça se peut qu'ils les trouvent bêtes.
Ouais.
Sauf erreur, les Québécois, on est toujours encore extrêmement bienvenus. Oui. Puis les Canadiens, surtout, dans le monde en général. Puis les gens, quand ils savent, puis ils nous entendent, à notre accent, qu'on parle pas le même anglais exactement qu'ailleurs, ben je trouve qu'ils sont toujours portés à nous aider. Même la communauté militaire, t'es Canadien, tu débarques à quelque part, puis t'es bien vu, tu sais.
Surtout souvent
en Europe, parce que t'arrives en France, le débarquement, les Canadiens, c'est comme assez élogé quand même.
Ouais. Plus beau char et le plus laid char, selon vous? La plus belle voiture, plus laide?
Plus belle voiture. Des fois, il faut revenir dans les vieilles années, mais le Ferrari 250 GTO, c'est un chef-d'œuvre qui se démodera jamais, qui est extraordinairement joli. Un design plus rough, le AC Cobra, t'sais, de Carol Shelby, c'est oui, c'est brutal, oui, c'est, mais il y a quelque chose t'sais, de profondément mâle. Là, c'est toute une machine.
T'en as eu un, toi?
Oui, c'est 250 GTO, malheureusement pas. J'ai pas comme 30
millions. Ben, travaille plus fort, tu l'as dit tantôt. Ouais.
Je suis à 30 millions près de closer. Ah, okay, je te le dis, on est pas loin. Là.
Si les commandites rentrent, là, on va peut-être l'avoir.
Mais ça, puis les Porsche 911 de toutes les époques, ouais. Moi, je trouve que c'est un design indémodable, extraordinaire, qui ont su faire évoluer alors que d'une génération à l'autre, les gens disent c'est assez. T'sais, là, sont au maximum du concept. Et ils font toujours mieux.
OK.
Donc,
mais là, Carl, il faut que tu fasses le plus laid aussi, le véhicule le plus laid que...
Le plus laid, Colin. J'ai de la misère. Il y en a beaucoup de voitures LED, mais j'ai de la misère à mettre le doigt sur une seule.
Pense-y. Le plus beau char, selon toi, Pat?
Bon. C'est sûr qu'à un moment donné, on tombe tous dans l'exotisme, là. Tu sais, mais moi, c'est une Mercedes 300 SL Gullwing. Pour moi, c'est le char parfait. D'ailleurs, au musée dont je parlais tantôt, je me suis assis dans une. Je regarde la photo encore dans mon sel, tu sais. C'est un char qui valait une blinde, comme diraient nos amis français.
Ah oui, une blinde.
Mais qui vaut 2 et 3 blindes maintenant.
Aujourd'hui.
T'sais. Ouais. Fait que ça... T'sais, en 57, ici, tu avais des Chevrolet Bel Air sur un châssis tubulaire, puis tu as l'autre bord, tu avais Mercedes qui fait une 300 SL qui tu sais, tu rentres dedans, c'est large de même, tu tombes dans un trou, tu as le volant qui sortile sur toi, tu es pogné d'un... C'était cœur.
Oh, puis les ailes. As-tu déjà conduit ça?
Non, jamais. Okay, honnêtement, jamais. Non,
mais.
Je pense, tu sais, je veux dire, ça reste. Ceux qui en ont, de toute façon, c'est une expérience de l'apprendre. Puis quand t'en sors, appètes-tu, appètes-tu pas. Puis en plus, ben, tu prêtes-tu un char d'une couple de millions à quelqu'un que tu connais pas, pas tant.
Puis est-ce que, si je me trompe, les premières SLS AMG étaient une réplique? T'sais, on s'était inspiré.
Ça, je m'en suis acheté une.
Puis il y avait les portes qui étaient...
Gullwing. Papillon.
Oui, c'est ça, papillon.
Ouais.
Fait que ça, c'était cool, je trouvais, moi.
C'était cool.
J'avais conduit ça avec Barrette. On avait conduit ça équipé pour rouler. Ouais. J'avais capoté Barrette aussi avec Michel.
C'est tout qu'un char. C'est tout qu'un char.
Ça, je trouve que c'était une belle réussite de prendre le passé, l'amener dans le futur, si on veut, dans le présent, mais aussi dans le futur, parce qu'il avait retravaillé les matériaux, évidemment, mais il avait gardé un petit côté classique de la Goldwing de l'époque.
Absolument.
Pis ça, je trouvais que c'était réussi, en tout cas. Puis à conduire, c'était extraordinaire.
De façon plus... ben, tu sais, une Carrera GT, ça, c'est sûrement... Tu sais, moi, dans mon top 3, c'est Carrera GT, c'est 300 SL Goldwing, puis c'est... ben, Carl l'a dit tantôt, les 911, mais...
Les gars, ils sont pas capables de m'en donner
si
une.
Si je pouvais, ça serait de McLaren F1 en mon... Tu sais, comme au top de tout.
Ça, c'est la plus belle, selon toi.
C'est pas juste la plus belle, c'est la plus désirable. Parce qu'il n'y a pas juste que la beauté qui rentre en ligne de compte, il y a aussi le chef-d'œuvre de technologie, la réception du public, la mythologie autour du char, parce que c'est quasiment un dieu grec né, ce char-là. Okay. Donc, il y a ça. Le plus laid.
Oui, vas-y.
Le plus laid, moi, mon idée est faite pas mal.
OK, je vais dire ma plus belle avant.
Ah, oui, bonne idée.
Je vais vous surprendre. Moi, c'est la BMW Z8.
Ah, absolument. Ah, ouais, c'est un chef. Dans James Bond, d'ailleurs, ça a été dévoilé, ce char-là.
Il y en a une au musée aussi. Puis mon ami trippe dessus, celui qui gère le musée. Moi, je ne sais pas pourquoi, elle ne me touche pas.
C'est ça, je te dis. C'est pour ça que je te dis, je vais vous surprendre.
Ouais.
Il y a quelque chose qui est venu me chercher. C'est un peu comme la Goldwing.
Ouais.
C'est exactement ça, en fait. C'est le passé avec le futur, puis qui est marié là, de façon exceptionnelle. Puis, écoute, à l'époque, ça se vendait à des prix intéressants. Puis aujourd'hui, ben, ça a triplé, quadruplé de ce que ça se vendait il y a...
Ça l'a explosé. Mais c'est un auto qu'on aime ou on n'aime pas, on dirait.
Parce que oui.
Très typé, très...
Exactement.
Polarisante, là.
Oui, vraiment.
Ouais.
Ouais, ouais.
Absolument.
Bon, la voiture la plus laide, selon vous?
Tu as donné deux choix. J'aime ça donner deux choix, moi. Soit, entre autres, le Hyundai Stellar, qui n'était pas une merveille. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, Hyundai ont des designs extraordinaires, une super qualité toute, mais Stellar, c'était tout qu'un départ. Là, ça ne prenait pas une grosse côte pour avoir de la misère à se rendre en haut. Ou des véhicules qui mettent... Et là, je n'ai même pas d'exemple précis, mais qui mettent trop d'appendices aérodynamiques pour trop en faire. Moi, un design chargé, je suis pas capable de vivre avec ça. Ça m'énerve.
Okay.
Fait que surtout, on voit ça dans le monde du tuning, là. Mais les gros ailerons,
ils ont des kits, des néons en dessous, des 19, genre, là,
alors que c'était des autos d'origine parfaite ou à peu près. Moi, j'appelle ça grainer un char. Ouais. Mon expression, vous venez d'apprendre une expression.
On salue Kevin.
Oh! Toi, la plus laide voiture?
Ben là, tu sais, moi, je suis obligé de te dire un Aztèque, sérieux, c'est épouvantable. Je sais que tout le monde l'a dit, mais un Aztèque, là, c'est. C'est tellement laid que ça a été abandonné par même ceux qui ont payé pour en avoir, tu sais, que là, c'est rendu presque désirable tellement il n'y en a plus. Puis l'idée de faire un camping avec ça revient de.
En 2024. Tu peux mettre une tente là-dedans.
Ouais, rétroactivement, ça serait hot aujourd'hui si on sortait de quoi l'équivalent, tu sais. Fait que, mais on n'était pas là pendant tout, tu sais.
C'est vrai que ça a connu une recrudescence quand Breaking Bad a sorti, parce que le personnage principal de Breaking Bad avait un Aztec.
Moi, là, il y a toujours la plupart des chars sur lesquels je trippe, ça vient d'une télésérie, ça vient d'un film, ça vient de quelque chose, tu sais. Généralement, on l'oublie, là, même si on est là-dedans, le public en général écoute Fast and Furious, il ne savait pas c'était quoi un grand national, il le voit à TV, parce que tu vas checker Fast and Furious 10, les autos qu'il y avait dedans. Tu dis, ben, les grands nationales viennent de prendre 10 000 demain. Là, Nimpala, puis 64, c'est la même affaire. T'sais. Tu dis, bon, mais ça ressemblait à quoi quand, dans ta vie quotidienne, t'accordes-tu autant de temps que ça pour t'instruire ces chars du passé? La plupart du monde, non. Fait que les films servent à ça. Fait que la réponse, c'est clairement oui.
OK. Simon a suggéré quelque chose que j'ai beaucoup adoré, le PT Cruiser.
Ah, tu triches, toi, tu regardes l'écran.
Mais parce que j'aurais eu l'Aztec en tête, fait que là, j'ai sorti. Ce qui m'écœure le plus du PT Cruiser, c'est que j'ai eu un 5 minutes où j'ai fait « Ah, cool! » Là, je fais « Oh, pas cool! »
C'est comme... T'étais chaud, là, on va se le dire.
Hey, peut-être un peu, mais regarde, à un moment donné... Ça...
Richard était un peu cocktail, des fois.
Il
là.
Est passé, puis on était au bar. Mais bref, ça, c'est pour le plus laid. Mais là, on va terminer cet épisode avec les conseils, le top 5 des conseils pour les gens, parce que ça nous a été demandé sur nos réseaux sociaux, des choses à savoir pour acheter et ou vendre un véhicule, que ça va nous aider finalement.
Mais qu'est-ce que je t'ai demandé de me rappeler tantôt?
Lotus. Ah, c'est Richard qu'on parle de Lotus,
Lotus. Mais tu commences avec ça?
Ben, si tu sais Lotus, vas-y, embarque.
OK, ben Lotus, rapidement. On tourne une promo pour équiper pour rouler. Puis c'est vraiment fait quasiment comme un film. Là. On passe en dessous du viaduc Atwater.
Oui, qui avait fermé.
L'idée, le scénario, c'est que c'est un soir de pluie. C'est dark dehors. Et il y a deux Lotus qui se suivent, c'est Carl et moi. Mais à un moment donné, faut que je ralentisse. Moi, je suis en avant. Faut que je ralentisse, mais je pèse sur le break. Et Carl me dépasse de façon vive. Et ensuite, on se retrouve dans un stationnement intérieur. Moi, j'arrive avant. Puis lui, il arrive juste sur un runner en faisant de la drift entre les poteaux de ciment d'un stationnement intérieur, rappelons-le.
On s'entend que c'est pas le char le plus facile à drifter. Là.
Tu sais mieux. Moi, c'est rare. J'essaie ça à drift à la maison, mais relax.
Oui. Fait que... Là, le réalisateur dit « Bon, l'arrêt, là, quand tu breaks, il faut que ça soit plus agressif que ça, parce que c'est pas bon en caméra de même. » Je dis « Ouais, mais Chris, Carl, il me suit à 10 pieds en arrière de moi. Là, c'est dangereux, là. » Là, Carl, il me pogne. Il dit « Richard, quand arrive le moment, go, là, tu crisses les breaks. Je m'occupe du reste. Hey, mon gars, je suis comme, ben, t'es malade. Ça break, là, ça, tes petites Lotus.
On a chorégraphié aussi. Tu sais, le réalisateur, à un moment donné, il a dit, ben, faites un peu ce que vous voulez. Là, Richard, tu vas swerver violent de tel bord. Tu vas faire ci, je vais me mettre là.
C'est comme si j'ai coupé la route, dans le fond. Fait que là, écoute-moi, mon gars, je fais comme, OK, là, c'est do or die. C'est 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'il break dans le fond? J'ai les fesses serrées, mon gars. Je le vois passer, genre. My God. Là, on coupe. Là, après ça, il arrive avec, dans le stationnement. C'était une autre scène, mais quand même, ça a fait une super... Quand est-ce que
cool,
tu fais ça
la
que,
promo, là.
Ouais, que t'as l'impression d'être au cinéma, mais pour ton propre rôle, tu sais? C'est ça. Fait que c'est notre
histoire. Mais Richard, t'as un talent qui s'ignore au même titre que Pat en moto. Dit « Oh non, je suis pas si hot que ça. » Les deux, vous avez des mots t'as dit de bonne main, puis vous êtes capable. C'est juste que vous le savez pas, vous êtes capable.
À force de conduire des autos, tu prends confiance en tes moyens aussi, j'imagine, surtout quand t'animes un show avec tous les chars d'exception qui existent.
À équiper pour rouler, on en faisait à chaque semaine là, sur le circuit. Fait qu'à un moment donné, on prend confiance. Mais tu vois, là, aujourd'hui, je referais le circuit. Je repars de loin parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Puis là, tu sais, la confiance est moins là. T'sais. Mais
moi, tu sais, là, je te connaissais pas à cette époque-là, mais je me rappelle encore de ta face. Puis c'est l'image que je me suis. Avant de te rencontrer, c'est l'image que j'avais de toi. Quand tu étais dans l'équipe pour rouler, puis tu avais conduit la C63S Black Series de Mercedes. Parmi tous les épisodes, t'étais comme genre flabbergasté. Je m'en rappelle plus que toi. C'est ça que je te disais tantôt. Je vis mes souvenirs par rapport à
ça. C'est un monsieur de Baie-Saint-Paul qui était venu.
C'est ça que Sylvain Cossette qu'on avait fait ça? C'est 63. Ben, peu importe, là, on n'est pas là.
Il n'était pas convertible par cœur, ça a été un hard top, là. Mais Sylvain Cossette, c'est un convertible, oui.
Black Series.
Elle était rouge.
Les ailes sont comme, méchant, white body un peu, c'est surenflé, les ailes, tout ça. Puis c'était tout qu'un morceau de char pour le prix, ça.
Moi, je me rappelle du monsieur qui me rejoint sur mon Facebook en disant, je m'excuse de vous déranger. Si jamais vous avez envie de conduire ça, et à ce moment-là, il n'y en a pas de Black Series. J'en ai une, puis je serais prêt à venir, mais là, je vais demeurer dans quel coin? Baie-Saint-Paul.
Baie-Saint-Paul, Charlevoix.
Hein? Vous allez faire Charlevoix jusqu'à au circuit Icar. Ouais, monsieur. Il a pris son hôtel, il a couché à l'hôtel le matin, il était le premier arrivé sur le tournage. Les questions, on peut faire quoi avec votre auto? Bien, si vous n'êtes pas à l'aise, non, mais je veux dire, on la pousse-tu? On use-tu les freins? Oh oui, j'ai commandé 4 pneus, ils sont chez nous. Là. Quand je vais revenir, on échange. Là, j'ai fait « wow ». Il y a vraiment du monde qui nous font confiance. Fait que je le salue encore et il va se reconnaître. Merci.
Si je n'avais pas été marié, je pense que je l'aurais marié.
Fait que là, tu t'en rappelles, Charles?
Oui, très, très bien.
Super.
Donc, les conseils à savoir pour acheter, vendre un véhicule, mettons un top 5.
Ben, tu sais, il y en a plusieurs, mais mettons, là, de façon simple, on va démystifier si tu ramènes ton char au garage, OK? Ça vaut-tu la peine que je laisse 8 pneus ou pas? Ça vaut-tu donc l'hiver et été? Ça vaut-tu la peine que je fasse le ménage en espérant en tirer davantage?
Ouais.
Ça vaut-tu la peine que je change les freins et que je dise au garage, je viens de faire les freins avant? Toutes ces réponses-là, c'est non. Si tu le vends par toi-même, tu veux créer l'effet wow. Si tu vas vendre ton char au garage, t'as pas d'effet wow à avoir, pas en tout. La valeur, on rentre un numéro de série, on rentre un millage, on check les comparables, puis on donne le prix en gardant un budget de recondition moyen que chaque garage s'est établi. Fait que garde tes tailleurs, garde tes accessoires, garde tes tapis, garde tout ce que tu peux garder.
Garde ta propreté.
Garde ta propreté. La laver. Non, mais tu sais, tu payes 200$ pour faire un ménage, ça vaut pas la peine. Nous, là, de toute manière, même si tu te forçais pour faire ce ménage-là, il sera jamais fait comme une recondition de garage qu'on va payer pour faire faire anyway.
Okay.
C'est sûr que là, si tu as 2 livres de peanuts dans le fond du char, c'est une autre histoire. Là, j'ai des vidéos, je te montrerai ça, c'est épouvantable. Mais ça, c'est la première affaire. Ça n'affecte pas la valeur de revente d'un véhicule au concessionnaire.
Au concessionnaire,
ouais. Est-ce que si ton auto est accidentée, tu dois déclarer, ben, au-dessus de 3000, il faut que tu déclares que ton... C'est la responsabilité du marchand d'investiguer, de faire sortir un rapport Carfax parce que le professionnel du domaine d'automobile, c'est le marchand, c'est pas toi. Fait que, mais l'idée, si tu vends un particulier, tu déclares c'est quoi la valeur d'accident, si accident il y a eu. Si tu es obligé de déclarer si tu as fait repeindre un coin d'aile, pas en tout. T'sais. Fait que, un moment donné, il faut en prendre puis en laisser par rapport à ça. Ouais. C'est aussi à l'acheteur que de s'informer et de poser des bonnes questions. Par rapport à ça, faire inspecter votre véhicule. Je le répéterai jamais assez. J'ai acheté, puis si c'est un bon char, là, j'ai acheté une Tesla S 2016 de 100 000 kilos la semaine dernière. Puis la suspension avait un slow leak au niveau de l'air parce que c'est une suspension pneumatique. Puis il avait été comme renfoncé d'un coin. On l'a fait inspecter. 7 000 $ plus tard pour la suspension. Oh,
ouais.
C'est pas que c'est... Ça a l'air de rien. Tu dis c'est un choc. Un choc, ça coûte comment? Un amortisseur sur un Civic coûte 369 $. Mais avec les deux amortisseurs arrière, avec la job de brake qu'il y a à faire sur le char, c'est 5 000.
Wow.
5 000, là, ça change un peu la donne quand tu achètes un auto. Fait que faites-la inspecter. T'sais. L'autre affaire, ça serait quoi? Je dirais quand tu veux changer de char, la première affaire à réfléchir, c'est bon, ben, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça, c'est une chose. Là. Parce que si tu changes d'idée après avoir acquéri ton auto, bien évidemment, tu vas subir une dépréciation sur le coût parce que tu viens t'acheter une voiture sur laquelle un commerçant a fait un profit. Donc, la valeur de rachat par ce commerçant-là ne sera pas la même. C'est clair en sortant du garage. Si tu achètes un véhicule d'occasion et tu veux maximiser ton échange dans la transaction, bien, tu pourrais possiblement l'afficher toi-même. Tu pourrais possiblement offrir... ton véhicule d'occasion moins cher. Mettons, par exemple, le garage t'en donne 20 000. Le prix de valeur du marché, c'est 25 000. Si tu l'affiches à 22 500, ton char toi-même...
Tu viens de faire 2500.
Tu viens de faire 2500. Et le garage peut même offrir le financement à ton acheteur, une vente d'accommodation. Les gens ne veulent pas s'embarquer là-dedans, mais le meilleur outil pour faire une bonne transaction puis pour décrire ton véhicule usagé, c'est souvent toi-même. Mm-hmm. Tu prends une petite photo, tu le mets en marché un petit peu moins cher. Les gens, l'erreur qu'ils font puis ils se découragent, c'est qu'ils affichent ça au prix qu'ils l'ont vu dans une cour de garage d'occasion. Ouais. Seulement 25 000, quel avantage, moi, j'ai comme client d'acheter le tien versus d'acheter lui d'un garage, j'en ai pas. Parce que le garage m'offre, oui, du financement, tu peux le faire, mais surtout une garantie sur le véhicule, etc., tout ça. Mais là, un petit peu moins cher, affiche-le pendant 2 semaines, brûle-le pas. Si tu le mets trop cher, tu le brûles. Mm-hmm. Fait que là, après ça, c'est tu viens de maximiser ta transaction d'un bord comme de l'autre. Puis, ben idéalement, essaye d'acheter ton char à la fin d'un mois. T'sais, c'est toujours encore vrai. Les objectifs, on s'en fixe chaque commerçant à la fin du mois. Puis si mon target n'est pas atteint, puis tu attends à la fin du mois pour me faire une offre sur un véhicule, je vais être prêt à laisser un peu d'argent sur la table pour rentrer dans les objectifs. Fait que, tu sais, un petit crash course assez rapide, ben tu affiches ton char, puis tu t'achètes à la fin du mois. Déjà, là, ça aide.
Et on s'entend que la plupart de ces affaires-là sont pas à l'avantage de Pat, puis il dit quand même. Donc... chapeau.
Ouais, mais les manufacturiers, les commerçants ne disent pas ça. Ils vont, tu vas acheter un char, tu finances là-bas, ils sont. Dans le COVID, c'était pire. Là. Ils t'obligent à financer, ils t'obligent à prendre la garantie prolongée, ils t'obligent à prendre tout, sans ça, ils ne vendent pas le char. T'sais. Je veux dire, c'est presque de l'extorsion carrément. Puis moi, ça me fait chier solide, ça, quand ça arrive, quand j'entends ça. Souvent, il y a des commerçants qui disent même, tu viens chez nous, mais tu es obligé de financer 6 mois avant, sinon tu ne peux pas rembourser. Ben, c'est pas vrai, c'est des prêts ouverts au Canada. Tu peux rembourser quand tu veux. Moi, je le dis aux clients, la seule différence, c'est que je vais perdre ma ristourne de financement. Fait que si je fais 3, 4, 5, 6, 700 000 piastres sur ton financement, ben c'est pas compliqué. Moi, quand je fais une transaction, j'ai deux bras. Mon premier bras, c'est faire le profit sur l'auto qui paye mon vendeur, mes frais fixes, la directrice commerciale, puis nous en reste un petit peu. Puis mon deuxième bras, c'est le financement. Si tu m'en enlèves un puis tu rembourses ton financement avant 6 mois, mais je fais plus une scène sur le char ou pratiquement pas. Mon but, c'est pas de faire pitié, mais on fait moins d'argent. Fait que la différence que je t'explique, tu peux rembourser avant, mais je vais me faire prendre l'argent dans mon compte rétroactivement. Puis c'est ça la conséquence.
OK, fait qu'il faut dire au vendeur, regarde, je vais te le garder pendant 6 mois, puis après ça, je le paye.
Ben tu le payes cash, mais moi c'est plutôt arrêtons comme commerçant de déclarer des informations mensongères pour tromper les clients, tu sais.
Mais si tu veux donner savoir le maximum puis que ton vendeur ait aussi ce qui lui revient, tu dis bien mec, tu voudrais payer le char cash. Ouais. On va le financer 6 mois, puis dans 6 mois, je vais le payer cash.
C'est souvent même une arme de négociation des consommateurs avisés. Dis, gars, je vais te le financer 6 mois, là, ça va donner une ristourne, mais laisse-moi les pneus avec ou bien peu importe. T'sais, dans les faits, on calcule pas ça à la pièce comme ça, mais c'est de bons procédés. Ouais.
Okay. Ouais. Ben, ça, c'est tous des conseils que notre prochain invité au podcast aurait aimé savoir. Mathieu Baron, qu'on va venir te voir là, le prochain podcast. Merci à vous autres d'avoir été là. On va parler aussi de comment une montre a fait en sorte qu'on va peut-être aller faire une course, lui et moi, en Italie. Une des affaires qui vont se passer. Prochain épisode avec Mathieu Baron. Merci beaucoup. Merci à la gang de La Poche Bleue. Puis vous nous suivez partout, hein, Facebook, Instagram, sur nos sites. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir.
Absolument.
Ciao. Bonne semaine. Trace de break vous a été présenté par les stations Arnois. Faites-le plein d'aventures. Et de Occas, premier sur les opportunités.
L'avenir de la conduite est à portée de main. C'est maintenant ou jamais. Montez à bord d'une Mustang Mach-E. Profitez d'une baisse de prix de 5 à 13 000 $ sur le PDSF. Et jusqu'au 30 avril 2024, obtenez 0,99% à la location et jusqu'à 12 000 $ de rabais gouvernementaux sur les Mach-E 2023 neufs sélectionnés. Faites vite, parce qu'une Mach-E à ce prix-là, c'est du jamais vu. Pour plus de détails, rendez-vous chez votre détaillant Ford ou sur Ford.ca.